Pigeot Immobilier, la française immobilière, Habitants, Rennes Parc Expo, le groupe Pigeot, des métiers multiples, un acteur unique. Le groupe Pigeot, partenaire officiel des Rouges et Noirs.
Coup d'envoi de votre programme avec Pascal Menuiserie, fenêtres, portes et volets dans vos salles d'exposition à Rennes et Vitré.
Madame, monsieur, bonjour, bonjour les frustrés, bienvenue sur le plateau de Pleine Lucarne. On va essayer de vous faire digérer ce qui est arrivé hier après-midi au stade Pierre-Mauroy et ce match nul des Rennais face à Nice après avoir mené 2-0. On va aussi parler de Marseille qui arrive très vite, hein, qui arrive dimanche, et ça sera pratiquement un match à 6 points avant la trêve, même s'il reste encore un certain nombre de points possiblement à engranger avant la fin du championnat. Il reste 9 matchs, pas mal de stars autour de cette table pour parler de cette rencontre. Christophe Penven de TVR. Salut Christophe.
Salut Vincent.
Notre sage à tous, c'est Pierre Lecomte de l'Académie du même nom. Salut Pierre.
Salut Vincent.
Un des leaders du classement des pronostics cette année, David Thomas du Télégramme. Salut David.
Salut Vincent.
Et puis la seule qui était vraiment, véritablement, physiquement à Lille hier et elle était avec nous, c'est Chloé Le Bouchard de West France. Salut Chloé.
Salut Vincent.
À chaque fois que vous allez à Lille, Rennes ne perd pas.
Ils ne gagnent pas non plus.
Non, voilà. D'accord. On va en parler et on va revoir tout de suite le résumé de ce match qui nous a tant frustrés et pour bon nombre d'entre vous, tant énervés. Eden Hazard était la vedette de ce match. Il avait pris place en tribune pour assister à la rencontre. Il n'est pas plutôt installé dans les brouillards des fumigènes que Théâtre trouve Bourigeaud. Centre parfait de Bourigeaud au deuxième poteau pour Blas qui reste dans le but. On demande est-ce qu'il s'est fait mal, est-ce qu'il pleure. Moi je croyais qu'il pleurait, mais non. Est-ce qu'il a fait une main? Non, non plus. Il s'est simplement peut-être un peu cogné le nez avec le ballon, car voilà, il marque le but, on joue depuis une minute, et Blas très vite va montrer ce dont il est capable. Il sert Matuziwa, frappe de Matuziwa, et Chevalier capte le ballon. On joue depuis 20 minutes maintenant, ballon récupéré par Matuziwa. Et but formidable de Kalimuendo, bien servi par Gouiri. Ça doit être la première fois de la saison que l'un trouve l'autre, d'ailleurs. Mais le but est magnifique et ça fait 2-0. Il faudra attendre juste avant la mi-temps pour voir les Lillois réagir. Il y a cette triple occasion pour Zegrova. Une fois, deux fois, trois fois, ça passe à côté. Rennes un peu chaud hein, à la fin de première période. Mandanda est mis à contribution, toujours du pied, vous allez le voir hein, dans ce résumé. Et il y a cette action très bien de David qui trouve le montant gauche du gardien rennais. 2-0 pour Rennes à la mi-temps, c'est formidable. D'autant que les Rennais ne souffrent pas beaucoup en deuxième période. Il y a cette montée de Galadoué qui va trouver un bon centre. C'est sans doute l'endroit où il fallait la mettre. Mais bon jaillissement du gardien, on joue depuis 50 minutes. Entrée de Cabella. Yazidche, tout de suite, ça change un petit peu. Mais jusqu'à la 85e, les Rennais sont plutôt tranquilles, même s'il y a quand même des parades, comme ici, de Mandanda, belle horizontale sur cette tête. Centre de Bourigeaud, tête de Matuziwa, non cadrée au premier poteau. Et puis arrive la 85e minute, on y reviendra sur ce premier but où David est tout seul dans la surface de réparation. Regardez comment il passe dans le dos des défenseurs. Et on se dit, le troisième but, c'est le plus important. Car oui, il y aura un quatrième, centre de Yazidche, tête de Cabella, reprise derrière de David. On joue la 92e. Ça fait deux partout. Il reste 5 minutes et on se dit, ça pourrait bien même faire 3. Ça fera pas 3. Ça fera que 2. 2-2. Mais après avoir mené 2-0 chez une des meilleures équipes défensivement parlant européennes, ça fait un peu mal. Alors on regarde le classement, parce qu'on va beaucoup en parler de ce classement. Rennes est 8e, 3 points de retard sur Marseille, le prochain adversaire, mais à 4 points simplement de la 6e place. Et si on veut aller par là, Rennes n'est qu'à 6 points aussi de Lille, le 4e. Il va y avoir beaucoup de matchs entre équipes de haut de tableau. Bon, quand même, l'Europe, est-ce que l'Europe est toujours au programme?
Oui.
Oui.
Évidemment.
Allez, allez.
Oui.
Oui. Oui. Ok, est-ce que la Ligue des Champions est toujours au programme? On revoit le classement.
Il reste 9 journées, déjà.
Il reste 9 journées.
9 journées, David. Il y a 6 points.
6 points sur le 4e.
Pourquoi pas?
pourquoi pas.
Pourquoi pas, pareil. Hein. Ok, c'est compliqué, mais pourquoi pas.
Mais pourquoi pas. C'est pas. Après, c'est vrai qu'on.
Oui,
est...
mais c'est évidemment mathématiquement c'est possible. Mais...
Ah bah oui, mais tant que moi mathématiquement c'est possible, je te dirais pourquoi pas. Non, moi, je suis désolé, je peux pas te faire autrement. Autrement, oui, dans ces cas-là, on joue plus à ce jeu-là.
On revoit le tableau. On peut revoir encore le tableau. Moi, ce que je veux regarder, qui sont les gens entre Rennes et Monaco, par exemple.
Oui, mais regarde, Nice, c'est en train de...
Ça oui, n'avance okay,
plus.
Nice,
okay. Nice n'avance plus. Lens va moyennement aussi. Lille, ils ont de la fatigue avec la Coupe d'Europe. Marseille en aura aussi de la fatigue avec la Coupe d'Europe.
Monaco
tout ça. Et Monaco, voilà, donc c'est vrai que tout ça, ça fait beaucoup d'éléments qui font que pourquoi pas. Après, évidemment, toi, t'as pas beaucoup de jokers. Ça, c'est sûr que avoir perdu 2 points au Parc et avoir perdu 2 points à Lille, oui, forcément, ça ferait 4 points de différence et tu serais complètement à la lutte. Ok, mais en même temps, si tu bats Marseille, tu te relances aussi, tu peux les faire douter, etc. Donc tout est.
Ok, c'est jouable. Pierre.
Moi, l'équipe la plus fiable. Enfin, juste pour dire, l'équipe la plus fiable dans les 8 premières, c'est Brest.
Oui.
La plus fiable.
Exactement.
Hein. Et plus récemment, Marseille, quand même. Plus récemment, depuis l'arrivée de Gasset, il faut quand même reconnaître que Marseille fait un sans faute. Hein.
Oui. Bien mais aidé par l'arbitre hier,
oui.
Monsieur Le Texier, oui. De Rennes. Les Nantais vont nous détester encore.
Nantes a été bon hier. D'ailleurs.
Nantes a été pas mauvais.
En deuxième mi-temps,
ils ont 2 pénaux. Évident, enfin...
1 sur 1.
Ouais.
Non, mais c'est 2 parce que vous n'aimez pas les arbitres.
Marseille et Brest sont plutôt pas mal. Vous y croyez aussi, Chloé
je vais faire un peu ma réponse de Normande comme David. Mais effectivement, tant que c'est possible, on peut y croire. Mais c'est là qu'on voit que le Rennes-Marseille va valoir encore plus cher que ce qu'on pouvait penser, parce qu'on est à 3 points des Marseillais, tu gagnes contre eux, déjà, c'est une équipe que tu rattrapes. Donc...
Et puis ça sera avant la trêve, on en parlera, et justement, ça serait bien de digérer la trêve de façon agréable, parce que, est-ce que vous ne pensez pas que le moral est atteint? 7 points lâchés sur les 3 derniers matchs.
Ouais,
est-ce que le moral...
En fait, tout le monde est frustré. Tout le monde est frustré après le PSG, auquel Lorient, c'est un match un peu à part. Et les gens sont frustrés après Lille. Donc, ça joue aussi forcément dans le moral, peut-être, des joueurs. Effectivement, de se dire, on fait tant d'efforts. On est, je le répète, c'est hyper important, depuis début janvier, la meilleure toujours, aujourd'hui, la meilleure équipe de Ligue 1 en nombre de points, 17 points. Voilà. Donc, cette équipe était sur une excellente dynamique. Elle s'arrête un peu brutalement, avec surtout des résultats qui sont hyper frustrants. Donc, voilà. Donc, ça peut jouer,
ça
effectivement,
peut jouer
sur la dynamique, de dire, on n'arrive pas à rattraper, on n'arrive pas, on n'est pas loin, mais ça peut jouer.
C'est surtout que si jamais, par bonheur, vous menez 2-0 contre une équipe, désormais, vous allez avoir ça dans la tête en vous disant, attention, ça peut revenir.
Oui, après, il y a un tournant du match, il y a la blessure d'Arthur Théâtre qui fait beaucoup de choses.
On va y revenir, mais sur le mental, 2 points lâchés à Paris, 2 points lâchés à Lille, perdre contre une équipe contre laquelle personne ne perd. Lorient.
En fait, hier, c'était pas tant cette perte de points cumulée qui avait l'air de marquer les joueurs, c'était vraiment cette manière de lâcher des points hier à Lille qu'ils ont déjà vécu par le passé. Mwendo le disait, on l'a vécu cette saison, mais on l'a aussi vécu la saison dernière. Et c'est beaucoup plus ça qui a pesé hier, se dire que même à 2-0, on n'est pas à l'abri, qu'il y a toujours ce côté rennais, des fois, de perdre des points un peu, on ne sait pas trop comment, sur des fins de partie. Et ça, par contre, ça avait l'air de marquer beaucoup les joueurs hier.
Mais j'aurais tendance à vous répondre, Chloé, que d'autres équipes perdent des points bêtement.
Oui.
Si on se penche sur chacune des équipes qui sont devant Rennes, à un moment ou à un autre, elles en ont perdu bêtement aussi. Mais se faire rattraper, c'est vrai, 2 buts en quelques minutes, c'est pas courant. Vous aviez titré, c'était la fin du marathon, le début du sprint. On est peut-être effectivement au début du sprint. Quoi qu'on peut penser que le début du sprint, ça sera après la trêve internationale. Il restera 8 matchs. Mais on verra ce qui va se passer. Donc le match d'hier, sur la compo. Hein, j'ai 2 interrogations. Ou plutôt que Omari.
Oui, il a expliqué. Omari avait pris un choc à l'entraînement et n'était pas vraiment en capacité de tenir sa place.
Il l'a expliqué, mais si on écoute bien son interview, il dit que c'était une des raisons.
C'était une des raisons, mais il avait certainement stratégiquement pensé plus à Ou qu'à Omari. Mais effectivement, le fait qu'Omari, d'ailleurs, ne rentre pas en cours de match, par contre, est complètement lié à son état de forme
d'accord.
De la semaine.
Ou plutôt qu'Omari. On reviendra sur Ou tout à l'heure.
Ou la titularisation. Ou peut-être que c'est un profil qui arrivait peut-être à mieux défendre sur Jonathan David. Peut-être.
Je pense c'est ça aussi.
Quand, une équipe qui défend bas.
Sachant que Armand Omari a d'excellentes stats au niveau des duels. Et c'est même dans la ligne de derrière le meilleur sur ce point de vue-là.
D'accord. Blas plutôt que Terrier, vous n'êtes pas surpris?
Non, Terrier, il n'est pas dans une bonne passe, on va dire. Blas avait fait un bon match au Parc, je trouvais. Contre Lorient, c'était pas top. Mais c'était légitime qu'il prétende à une 3e titularisation de rang.
Et à gauche
Bah, de toute façon, Bourigeaud, tu ne peux pas le déloger de la droite. Donc, voilà, même si les commentateurs de Canal+ connaissaient absolument rien au système de Rennes, ce qui m'a particulièrement agacé hier. Mais là, parce qu'ils ne regardent pas l'équipe, c'est pas possible. Ils ont regardé les matchs de Coupe d'Europe, quoi. Ils ont vu le 4-3-3 contre Milan. Mais, enfin, bref, passons là-dessus. Mais oui, c'était plutôt logique. Voilà, on sent bien que Terrier, il est un petit peu au creux, peut-être physiquement, je ne sais pas. Dans la tête aussi, peut-être que c'est un peu moins bien.
Donc. Et son entrée est insipide, hein. Il perd tous ses duels, il perd tous les ballons.
Il est décalé dans sa vitesse de réaction, on le voit bien, il y a une petite lenteur qui est due sans doute peut-être à son retour très progressif quand même en forme parce qu'il n'est pas encore revenu de sa blessure et ça va être dur.
Ce qui est symptomatique de Terrier, c'est que ce qu'il sait faire, c'est fuir les duels. Il sait faire ça, sortir des duels, et avec son jeu technique en déviation, etc. Là, il subit les duels. On sait que les duels, c'est pas un Golgoth. Hein. Donc, on voit tout de suite, notamment sur son entrée, il subit les duels, il les perd, ses ballons. Ouais.
On parle de la compo juste avant de parler des bons moments rennais. Et moi, je vous pose une question. Est-ce qu'il y a un problème? C'est Idou. C'est un type qu'on a acheté 11 millions et qui joue pas. Et Guéladoué est devant lui.
Depuis qu'il a quitté Clermont, Ferrand, regardez, Clermont est en train de sombrer. Hein. C'est lui qui tenait la baraque derrière. Hein.
Je crois qu'il est tout simplement en apprentissage du poste d'arrière-droit. Il a très très peu joué au poste d'arrière-droit, qui n'est pas le même que l'axe dans une défense à 3, l'axe droit. Et donc on voit que techniquement, l'apport offensif n'est pas de la qualité de Guéladoué aujourd'hui. Peut-être qu'il défend mieux. Oui, c'est un mec dur sur l'homme. Et c'est pour ça que je suis un peu étonné qu'il ne joue pas plus, puisque c'est le profil que voulait Julien Stéphane, un mec dur sur l'homme, qui gicle bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, sa technique au poste d'arrière-droit est déficiente par rapport à Guéladoué.
Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même un peu hallucinant.
Soit tu t'es trompé de profil et t'as pris un défenseur central, comme dit Christophe, pour jouer à 3, voilà, ce que tu ne comptes pas faire avec cette équipe-là. Est-ce qu'il est là pour l'année prochaine et tu repasserais dans un système à 3? Je ne sais pas, j'ai du mal à l'imaginer. Mais pour moi, effectivement, Guéladoué est devant, dans ce qu'on comprend en tout cas. Puisque tous les matchs importants, pour moi, j'étais persuadé que c'est pareil, c'est d'où il allait jouer contre le Milan les deux matchs. Non. Donc effectivement, aujourd'hui, pas la dynamique, mais en même temps, Doué n'est pas... Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Parfois, il est dans la lune. Ça se voit qu'il est un peu perdu.
Oui. Mais son deuxième but, notamment.
Oui. Mais c'est Truffert qui ne sert pas assez le centre.
On va y revenir.
Mais il y a les deux. Mais c'est lui, il semble installé comme titulaire.
11 millions d'euros. Qu'est-ce que c'est que ce mercato, quoi? On y reviendra.
Alors, le mercato, puisqu'il y a eu deux joueurs arrivés.
Deux joueurs.
Moi, j'ai vu la meilleure performance de Matuziwa depuis qu'il est arrivé. Je l'ai trouvé... un peu chien fou. D'accord, partout, ouais. Très intéressant, avec du déchet aussi technique, mais je me suis dit, voilà le joueur que j'avais envie de voir, que j'ai vu à Reims et que je voulais voir sous le maillot rennais. C'est sa première belle performance à mes yeux.
Ok, donc la compo, le système à gauche, 85 minutes, vous disiez, Christophe, presque parfaite. Vous avez vécu ça aussi comme vous étiez au stade, Chloé? Vous tremblez pas beaucoup, le début de ce match est canon.
85 minutes parfaites, c'est peut-être un peu fort quand même. 20 minutes parfaites, les 20 premières, il n'y avait pas grand-chose à redire sur la prestation rennaise, sur le plan de jeu mis en place par Stéphane. Il avait beaucoup prévenu sur le pressing des Lillois et on a vu que c'était les Rennais qui prenaient complètement les Lillois au pressing. Après, parfait sur 85 minutes, il y a quand même eu des petits temps faibles. Il y a la fin de la première mi-temps où ça a quand même largement chauffé sur le but de Mandanda. Et puis on l'a dit, Mandanda a fait un bon match, a fait des arrêts, donc c'est quand même qu'il y a aussi eu quelques frissons. Après, dans la globalité, non, c'est plus sur l'usage du terme parfait.
On peut dire que
le contenu était bon.
Quasi parfait, on avait dit.
Pourquoi je dis ça? Parce qu'au fait, on m'a comparé.
On va revoir les buts rennais pendant que
vous
dites ça.
Le match, la première mi-temps de Lyon est parfaite. Enfin, Lyon, c'est à des années-lumière de Lille à l'époque. Je ne dis pas Lyon, peut-être un peu mieux aujourd'hui, mais Lille, sur la dynamique de Lille, meilleure défense à domicile d'Europe avant ça. Pris 0 but en 2024 à domicile, 4 buts sur cette saison à domicile, c'est une équipe, le top. Voilà. Donc, voir le Stade Rennais marquer 2 buts sur 3 tirs cadrés, sur les 20 premières minutes, il marque 2 buts, une efficacité dingue. Ok, avant la mi-temps, on se dit, oula, il est temps que la mi-temps arrive parce que ça devient chaud. Mais pendant 35 minutes, ce Stade Rennais fait quasiment le match parfait.
Ça, c'est le deuxième but, avec là encore, pressing, rien, récupération
joue,
haute.
Ça joue, ils ont osé aller chercher Lille, je pense que ça les a surpris, aller chercher Lille sur cette première mi-temps.
Enfin, une frappe sèche de Kalimuendo.
D'ailleurs, le décalage, la justesse technique du match de Guiri, ouais. C'est formidable. C'est tout le match, c'est un régal. Quoi. Oui, franchement, oui. On sort de numéro 10 comme
quand,
ça.
Quand on va parler des joueurs tout à l'heure, on parlera de Guiri. Ça fait 2-0. Bourigeaud, une passe décisive pour sa 300e, même si tout le match n'a pas été. Et donc, à 0-2, vous n'êtes jamais inquiet, vous?
Déjà, quand tu vois Mandanda qui fait autant d'arrêts, quand même, parce qu'il fait quand même beaucoup d'arrêts, c'est-à-dire qu'on a quand même laissé beaucoup de positions de frappe aux adversaires. Donc il y a quand même beaucoup de situations, à mon sens, ça a un peu trop reculé, trop vite. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui doit avoir le même constat. Après, c'était évident que Lille menait 2-0. Même avec la fatigue de jeudi de la Coupe d'Europe, forcément, ils allaient aussi aller vers l'avant.
Oui, et voilà. Mais vous êtes dit, ça peut tenir.
Quand tu arrives à la 85e, que ça fait 2-0...
Qu'il n'y a pas de cases avant.
Particulièrement mis en danger, même s'il y a des frappes, etc. Mais plus le temps avance, moins tu es en danger.
C'est le constat de la saison du Stade Rennais, qui, quand elle mène et qu'elle recule, est en difficulté. Ça a été le cas à Lyon. Heureusement, il y avait eu des buts avant. Là, c'est pareil au Parc. OK, il y a une erreur d'arbitrage, mais vous reculez. Vous provoquez la force d'arbitrage au Parc. Pourquoi? Parce que vous reculez. Donc ça, c'est le vrai constat de cette saison. C'est quand ce Stade Rennais mène, si elle recule un peu, elle se met en danger. Et ça, c'est...
Et moi, je trouvais que tu vois,
ça se corrige pas.
Par rapport aux dernières saisons, il manque ce qui se passait souvent avec Genesio il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'il y avait 2-0, on continuait d'appuyer pour essayer de mettre le troisième, voire le quatrième, voire plus, etc.
Parce que le plus important, c'est le troisième.
Oui, mais au-delà de ça, pour s'éviter finalement de se mettre en danger, parce que ça arrivait trop souvent. L'an dernier, ça arrivait. Ouais. Il y a 2 ans, ça arrivait moins. Parce que tu mettais 3-4-0 et puis on n'en parlait plus. Et voilà. Là, c'est une maladie récurrente, comme l'a dit Cali. Hein. Finalement, oui, tu sais pas, même à 2-0, garder un score. C'est compliqué. Cette équipe doit continuer à attaquer.
Pierre, moi. Vous n'avez pas eu peur? Vous dites ça va passer. Christophe m'a envoyé des textos toutes les 2 secondes. Ça va passer. T'inquiète pas, t'es pessimiste, ça va passer.
Jusqu'à la 85e, non, j'ai pas eu vraiment peur, mais je me disais quand même, à l'image de ce que vient de dire David d'ailleurs, c'est qu'il y avait quand même des occasions pour les Lillois. Hein. Parce qu'on a trouvé un Mandanda qui est, tout comme d'habitude, excellent sur sa ligne dans des gestes réflexes. Il est moins bon autrement sur des dégagements lointains. Il a fallu attendre la 33e minute pour trouver directement Truffert. Avant, c'était directement sur l'adversaire. Là, il y a quand même... Je me disais, c'est un peu risqué. Quoi.
Alors, il y a un événement dans le match. Avec le recul, on s'aperçoit qu'il est important. C'est la blessure de Théâtre. Là, il va se mettre au sol à la 55e, mais 1 minute 30 avant... Il avait déjà fait signe qu'il était touché. Il avait dit « je peux repartir ». Et ça, Chloé, c'est un vrai sale coup pour la défense.
Oui, alors on ne sait pas encore le diagnostic de ce que va être cette alerte musculaire comme l'a qualifié Julien Stéphane. Mais c'est vrai que... Bah en fait, on sent que quand Arthur Théâtre est là, il a ce caractère, ce charisme, cette expérience. Même si ce n'est pas un joueur très âgé, ça reste un petit peu le taulier de cette arrière-garde qui est extrêmement jeune, et on sent que quand il sort, eh ben on perd une partie du caractère de l'arrière-garde. Alors, tout ne s'est pas délité à la minute de sa sortie, mais sur la durée, on sent en fin de match que sa présence manque.
Ouais, énormément. Pierre ?
Et c'est vraiment, je crois, le seul à trouver des renversements de jeu comme ça, des longues balles très précises. Le jeu bascule et ça donne subitement de l'air à l'équipe.
Le premier but, c'est ça.
Et oui.
Il trouve Bourigeaud sans but.
Et alors, quand il n'est plus là, bah, vous voyez, le ballon, il va pas loin très vite.
Ce qui a manqué après sa sortie, son état d'esprit d'aller continuer à chasser les adversaires, ne pas reculer quand on est un... Bah voilà, on va dire la jeunesse, évidemment. On va dire arrêtez de nous parler de la jeunesse. Mais oui, mais Bélossian, où ça recule. Guéladoué aussi, instinctivement, ça recule et c'est pas bon.
J'ai le sentiment, moi, que depuis 2024, depuis le passage à 4-4-2 comme ça, je trouve que c'est pareil. Théâtre, il a monté d'un cran, il a pris plus de place dans le vestiaire, c'est devenu le patron, ce qui n'était pas, le cas avant. Et on a l'impression là qu'il a vraiment un rôle important et que là, effectivement, tu l'enlèves dans la colonne vertébrale de ton équipe. Et c'est vite compliqué, même si Bélossian est censé être un défenseur qui aime défendre.
Je suis entièrement d'accord avec vous sur le poids qu'a pris Théâtre en l'espace de quelques semaines, voire de quelques mois. Alors, il n'y aura pas de tweet aujourd'hui. J'ai trouvé que la communauté était désagréable sur les réseaux sociaux, même assez détestable. Les gens, c'était sans doute dû à la frustration. Donc, ce n'était pas marrant ce que disaient les gens. Mais par contre, les gens s'acharnaient. C'est de la faute de Stéphane. C'est Stéphane qui ne fait pas de changement. C'est-à-dire que quand le premier changement intervient, le vrai changement, il y a déjà eu 5 changements pour Lille et il n'y en a pas pour Rennes. Alors on a posé la question, vous avez posé la question, tous autant que vous en étiez là-bas, à Pierre Mauroy, à Stéphane après le match. Écoutez, il explique pourquoi, à la 84e, il n'a pas fait de changement.
On était bien, voilà, on était très bien. Je regrette c'est qu'il n'y ait pas eu un arrêt de jeu avant le deuxième but parce que le dernier changement était programmé déjà. Voilà, Bourige était cuit. Donc on devait changer. Bah, quand tu es sous contrôle à ce point-là pendant 95 minutes, tu ne vas pas regretter de ne pas avoir modifié certaines choses avant. Après, on peut toujours faire mieux. Hein. Je ne sais pas quelle aurait été l'histoire de ce match-là, si j'avais fait d'autres choix. Mais voilà, non, là, comme ça, il n'y a pas de regret particulier. Alors, bien sûr qu'il y a il y avait de la frustration, il y a de la déception du résultat. Mais il faut aussi un petit peu prendre de la hauteur par rapport au contenu du match, regarder ce qui a été produit par l'équipe. Je crois que Lille avait concédé qu'un seul but sur les 5 derniers mois à domicile. On en a mis 2. On a été, après une entame canon, hyper réaliste aussi. En deuxième mi-temps, on avait l'impression qu'on était vraiment sous contrôle. Dommage qu'on n'ait pas mis ce troisième but. Je pense que ça aurait vraiment anéanti les chances lilloises. Et voilà, dans tous les matchs, à partir du moment où il y a un troisième but et un 2-1, on sait que la dynamique peut changer. Et c'est ce qui s'est passé à la fin de la rencontre.
Voilà. Sur le fait qu'il n'ait pas changé, vous approuvez tous un peu ?
Oui.
Sur les...
On comprend en fait, on comprend à la fois par ce qu'il dit et on comprend aussi quand on voit ce qu'il avait sur le banc parce que finalement, quelles étaient ses solutions ? Faire rentrer des joueurs défensifs, on a dit que quand Rennes passait dans ce mode gestion à reculer, c'était contre-intuitif et ils étaient encore plus mauvais, donc faire rentrer un défensif plus tôt, est-ce que ça aurait pas été encore pire ? Martin Terrier le fait rentrer tardivement et sa rentrée pousse pas à dire qu'il fallait le faire rentrer plus tôt et puis finalement... Qui d'autre on a sur ce banc oui. Pour
c'est toute la différence entre Lille et Rennes, la profondeur de banc de Lille.
La toile d'araignée était tellement bien en place pendant tout le match que finalement, et tu dis, il n'y a plus qu'un match par semaine. Donc les mecs, ils ont préparé ça. Lille a plus de fatigue sur l'ensemble de sa semaine.
C'était pas un grand Lille quand même hier. Hein.
Non, Lille a fatigué, je pense, parce que c'est tout.
Moi, je suis d'accord qu'il ne fallait pas forcément changer. Je trouve le travail de pressing de Guiri, Kalimundo, enfin des milieux de terrain, qui allaient chercher où tu enlèves un de ces joueurs-là, ou alors tu prends la décision, ok, on passe à 5 derrière, on met Seydou, 3 dans l'axe, parce qu'effectivement, ils ont fait rentrer Cabella, Gudmundsson et Yagiché à la 58e minute, donc ils ont mis des mecs devant, plus après Dago qui rentre pour faire sortir Ismaili, Bentaleb, tout ça. Donc en fait, oui, vous mettez du monde dans les 20 derniers mètres de la surface rennaise. Donc, ok, est-ce qu'on sait faire ça déjà de pas se mettre à, 5, à 7 dans la surface de réparation non. Pour défendre les ballons. Non, je suis pas sûr. Je trouvais que le jeu était plutôt intelligent de voir des joueurs pressés, aller essayer d'empêcher les Lillois de se rapprocher de la surface.
Le ballon, t'arrivais vite à te projeter, donc potentiellement aller sur les côtés, parce que Lille est donc.
Après, ce qui change tout, c'est le but de Lille. Il déclenche. Ok, c'est peut-être mal défendu. On va certainement en parler. Mais il y a la qualité de l'adversaire aussi. La passe dans la surface pour Jonathan David, elle est superbe.
D'accord. D'un gars qu'on ne connaît pas. Hein.
Il la trouve là, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il la retrouvera une autre fois. Parce que l'angle de passe est tellement incroyable.
Comment alors on explique que Rennes se fait reprendre ? Voilà. Vous l'avez dit un petit peu. Enfin, manque de caractère, je pose la question. Manque d'engagement.
Tu recules trop.
Manque de vice.
Concentration, agressivité. Moi, pour les deux trucs qui m'ont marqué, c'est Bélotion pas assez agressif sur le moment de la passe, justement, intérieure que je viens de parler. Deux, Truffert pas assez agressif sur Yagiché, qui a tout le temps du monde à centrer, mettre là où il veut, dans la surface de réparation. Ça dort après, dans la surface de réparation. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. Il y a ça qui manque du côté rennais pour faire basculer le match dans le bon sens.
Qu'est-ce qui manque à Rennes ?
Moi, je crois que c'est une question aussi d'expérience.
Eh ben voilà.
De manque d'expérience de la ligne défensive.
Le
La ligne défensive.
Mais Christophe.
19 ans, 20 ans, 23 ans, 23 ans. Je ne veux pas faire de l'agisme, mais en football, dans la charnière centrale, malheureusement, il faut en faire un peu. Parce que quand on met un Bélossian 19 ans derrière, évidemment, les autres le sentent aussi. Le gardien lui-même le sent. Hein, il est abandonné sur le deuxième but, on le voit bien, Mandanda. Il est abandonné sur le but égalisateur lillois par ses défenseurs. Et les défenseurs ne se font... C'est pas une histoire... Ils ont une peur qui commence à les gagner et ils reculent instinctivement. Et tant qu'on n'aura pas un aboyeur derrière quelqu'un de trapu, de costaud, de solide, théâtre, commence à prendre une dimension très importante. Et quand il disparaît, c'est là le tournant du match. Pour moi, c'est la sortie de théâtre. Bah derrière, ça se liquéfie
pour
et
moi,
ça revient
c'est
derrière.
La, c'est voilà. Les reculades de 20 mètres, 30 mètres, à force, tu t'exposes. Et tu t'exposes, là, effectivement, Guéladoué, il lâche Cabella, il ne doit pas le lâcher. Et effectivement, personne ne suit non plus sur David, puisque Wu, il le lâche complètement aussi. Donc, comme disait Christophe, ça dort dans la surface. C'est pas possible quand tu tiens 2-1. Alors, soit tu joues plus haut, soit tu ne sers pas assez. Enfin, voilà,
il manque
beaucoup de choses.
Mais vous mettez Danté dans cette équipe-là, il n'y a pas de but. Il y a peut-être un but, il n'y a pas de but.
Ah ouais, mais enfin, bon, on est tous d'accord. Il y a un jaune pour Danté, et puis il va avoir pourri l'arbitre pendant tout le match.
Mais on peut tourner le problème dans tous les sens. Ça est un manque d'expérience.
Mais est-ce que Danté, il empêche des latéraux qui ne sortent pas assez vite sur le centreur ou la passe? Est-ce que Danté, il peut quelque chose sur Guéladoué qui s'oublie, qui voit Cabella passer dans son dos et qui lui passe devant, qui n'est pas attentif? Est-ce que Danté, parce que c'est Danté, vous rêviez d'avoir
mais
Danté dans cette équipe
Danté.
D'expérience, est-ce
je
que Danté aurait changé quelque chose
match.
Sur ces points précis? Je ne sais pas.
Christophe, vous aimez bien le mot briscard, mais je suis désolé, dans tous les clubs qui réussissent en Europe, c'est des gens expérimentés en défense centrale. Je ne vois pas pourquoi Rennes serait l'exception.
Là où je suis d'accord, alors pour aller dans votre sens, je suis d'accord, ou au moins un briscard dans l'état d'esprit, ne subit pas, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, ne recule pas, fait en sorte que...
Tous les autres.
Envoie un message à tout le monde pour dire n'ayez pas peur, continuez à aller chasser.
Je vous rappelle que le briscard serbe n'a pas voulu rester à Rennes. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire si vous cherchez un briscard.
Ouais, mais
c'est bon, stop.
Mais
bon.
Et le briscard, il est au milieu de terrain là. Je parle un défenseur central.
C'est pareil.
Non.
T'en avais recruté un pour apporter cette expérience-là. Il s'est barré au bout de 3 mois. Voilà.
Oui.
Pour être poli en disant
Il a eu 8 dans l'équipe pour son match à Lorient.
Je m'en fous de ce qu'il fait. Il a été nul le match d'avant quand ça va trop vite. Donc,
En attendant, David, il manque un truc à Rennes.
Oui, mais il manque un taulier.
Et on ne sait pas quoi. On a demandé aux joueurs en zone mixte. Et qu'est-ce qui manque à Rennes? Vous allez voir, ils vous disent la même chose. Il manque un petit truc.
Il manque un truc. Je pense qu'aujourd'hui, on a notre place. On se doit de ne pas se voiler la face. On est à notre place et on ne mérite pas forcément mieux lorsqu'on voit les résultats qu'on fait, même si tout n'est pas jeté et qu'on n'a pas perdu non plus et qu'on reste sur une très belle dynamique en vrai depuis décembre. Mais il se manque ce petit truc-là qui fait qu'on est aujourd'hui là où on est.
Aujourd'hui, il nous manque encore ce petit truc qui nous permet d'être là-haut. Parce que 2-0 à l'extérieur, c'est un adversaire comme Lille, on doit être capable de tenir et de gagner ce match. Ce qui nous a rendu un peu fébrile, c'est le premier but. Le premier but, déjà, les a redonné de l'espoir, a réveillé un peu tout le stade. Et puis nous, on a énormément reculé, on a beaucoup plus subi.
Vous vous souvenez, Pierre, il y a un truc de Jérôme Ajax. C'est pour les très vieux, ça. Il y a un petit truc.
Je pense que le truc devrait mesurer 1m90 et avoir plus de 30 ans.
Moi, je pense que dans l'ADN de cette équipe-là, et depuis que Florian Maurice est là et Bruno Genesio, etc., dans cet ADN, cette équipe n'aime pas particulièrement défendre et ne sait pas particulièrement défendre. Donc elle doit continuer d'attaquer, même quand tu mènes 2-0 pour aller mettre le troisième. Mais vraiment chasser, attaquer et marquer. Et si tu mènes 3-0, bah oui, Lille, peut-être qu'ils ont une baisse de morale, qu'ils attaquent moins, etc.
C'est ce qui arrive à Lyon. Voilà. Lyon n'a jamais réussi à revenir.
Et donc, moi, je pense qu'elle ne doit pas renier une partie de son ADN qui est d'être une équipe qui est attaquante, pas défensive.
Chloé
donc, voilà.
Le Bouchard.
On se dit à ça.
Non, pour aller dans votre sens, ils ont quand même précisé un peu. Après avoir dit qu'il manquait un petit truc, on a eu quand même un peu la suite. Et les deux ont fait référence à la jeunesse de la défense. Donc ça va porter un petit peu d'eau à votre moulin.
Voilà. Oui, après, c'est toujours pareil. Il faut remettre alors en question.
Voilà. Vous reviendrez.
Donc trois sur les quatre défenseurs là, qui sont impliqués, les quatre défenseurs à la ligne de derrière, c'est que trois sont formés au Stade Rennais. Et vous pouvez aussi carrément balancer le truc. On remet en question la formation à Rennes. On lance pas Guéladoué, on lance pas Bélocian. Ils sont trop tendres, ils sont trop jeunes. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut aussi.
Il faut doser, Christophe.
Peut-être. Je suis d'accord que ce problème d'un défenseur central depuis maintenant presque 2-3 ans pose question.
Je suis en train d'essayer de réfléchir.
Après, est-ce que c'est pas aussi la politique du Stade Rennais de faire jouer ces jeunes, prendre des risques? Et ils ont pris un risque, c'est pas payant sur ces deux matchs, je pense, à Paris et à Lille. Parce qu'il faut quand même se rappeler c'est avant tout de la frustration. Ça se joue à pas grand-chose. Il ne faut pas tout remettre en question.
Depuis quand on n'a pas eu un défenseur central de 30 ans à Rennes?
C'est vrai.
Oui. Juste comme ça. Parce
que... Arnold Osterwer, 87.
Non, mais j'avais Jérémy Morel qui était arrivé aussi avec de l'âge et qui avait joué dans l'Axe aussi.
Est-ce que c'est des bons
souvenirs?
Oui, mais
voilà.
John Mensah, c'est un bon souvenir. Kader Mangan, ok. C'est
mais
bon
Mensah, il n'avait pas 30 ans. Il avait 25 ans. Donc Mangan, c'est pareil.
Pierre.
Et là, on a recruté Seydou, mais je persiste et signe, il ne faut surtout pas le mettre dans l'axe, il fait 1m72.
Moi, il doit jouer gardien de but, normalement.
C'est rédhibitoire. Il ne faut absolument pas le mettre...
Pourtant, il jouait une défense à trois.
Il est parmi les meilleurs de Ligue 1 dans le duel aérien, parce qu'il a un jump de dingue.
Puisqu'on parle de meilleurs, on regarde tout de suite les notes. Et alors, je vais dénoncer tout de suite. Si les notes ne sont pas hautes, c'est de votre faute, Chloé. Vous avez été dur, hein, mais vous étiez au match, donc c'est vous qui avez raison.
Non, c'est de leur faute, surtout.
Oui, c'est vrai. Non, vous avez raison. C'est aussi de leur faute. Mais on voit bien, le seul qui n'a pas la moyenne, finalement, parce que c'est Truffert. Et puis, Guiri, qui survole les débats. Mandanda aussi. Puis c'est bien pour la ligne d'attaque. C'est à peu près tout ce qu'on a dit. C'est le symbole un peu de ce match. On va en parler maintenant de Monsieur Hou. Et puisque vous me parlez des buts depuis tout à l'heure, des buts de Lillois, on va revoir le premier, si vous voulez bien. Voilà. C'est un dégagement de Mandanda. Ça revient sur une tête adverse.
Ça sert à rien. Voilà. Servir l'adversaire.
Là, ce garçon qu'on découvre, donc à Dago. Regardez la belle passe. Voilà, derrière, on sait que Jonathan David. Alors là, c'est qui est responsable? Regardez, il y a trois joueurs sur le porteur.
Celui qui le lâche au début, c'est où, justement?
Ou qui ne sort pas sur David, qui fait la déviation, ça part vers l'avant. Après, Bélocian, pour moi, n'est pas assez prêt. Il ne doit pas permettre cette passe-là. Voilà, Bélocian, il ne doit pas permettre cette passe-là. Et derrière, il y a une course qui rentre à l'intérieur de Christopher Hou qui est assez suspecte. On ne comprend pas pourquoi il ouvre l'angle au fait de cette passe.
T'as l'impression qu'il ne regarde pas forcément où est le
Après,
ballon.
Après, je vous dis, la passe est géniale aussi.
La passe, elle est incroyable. Ça, on est tous d'accord.
Quand je dis que c'est le symbole, Christopher Hou, il fait 85 minutes super au début. Il est physique, il est présent.
Je suis d'accord, à l'image de l'équipe, il fait 85 minutes plutôt très correct.
Il est très bon au duel.
Et il craque sur deux petits trucs. Il n'est pas concentré sur deux petits trucs. C'est très frustrant.
Ouais.
Ah non, mais ça, c'est clair, c'est énormément frustrant aussi pour lui, je pense. Parce que le mec se dit, il n'a pas beaucoup, beaucoup de temps de jeu déjà. Et quand il en a comme ça, finalement, il est impliqué sur les deux buts aussi. Alors, plus ou moins impliqué. Mais sur le deuxième, parce qu'il ne vient pas non plus serrer suffisamment David pour une potentielle deuxième ballon. Et forcément, c'est dommage, parce que ça vient ternir son match, qui était très bon jusqu'alors.
Ouais. Et ses notes en pâtissent.
Ah bah clairement, je pense qu'il aurait deux à trois points de plus avant les deux buts. En fait, il fait deux erreurs dans le match et il y a eu deux buts.
Alors, il n'est pas d'accord avec vous, Julien Stéphan, parce que Thomas Rassouli lui a posé la question en disant qu'il est impliqué sur les deux buts. Et il balait ça d'un revers de main en disant non, il n'est pas impliqué sur le deuxième, qu'on va regarder maintenant. Déjà, on ne cadre pas beaucoup Yazidche quand il centre. Beau centre.
Il s'arrête.
Regardez.
Truffert.
Ne cadre pas. Derrière, ça passe dans le dos de Guéladoué. Hein. Regarde, Guéladoué se fait piéger par Cabella.
Il y a un joueur qui va.
Regardez comment il est arrêté. Tu peux pas t'arrêter. Tu dois au moins aller vers ton but.
Il y a des défenseurs qui subissent l'action et d'autres qui anticipent et les attaquants qui veulent être sur le ballon. Cabella, il anticipe en se disant elle va peut-être arriver là. Et puis et voilà, c'est toute la différence dans l'agressivité que tu mets dans ce ballon.
Et peut-être pour une part due à l'expérience.
Oui, Vincent.
On peut parler d'expérience. À ce moment-là, si les joueurs ne jouent jamais, ils n'acquièrent jamais d'expérience. Wu est aussi un joueur qui a très peu d'expérience au final.
Oui.
Il joue très peu, partout où il est passé, à Lens c'était qu'un troisième choix, ou là, à Rennes il est aussi deuxième, voire parfois troisième choix. Soit il faut qu'il a joué ailleurs pour s'expérimenter, et voilà. Ou alors tu considères que tu sais que le mec a des défauts et que tu acceptes qu'il ait ses défauts.
Mais si tu as pour ambition de jouer la Ligue des Champions et le podium, comme ici, Florian Maurice nous l'a dit en début de saison, tu ne fais pas jouer que des joueurs qui ont besoin de prendre de l'expérience en défense.
On est d'accord là-dessus.
Okay.
C'est aussi peut-être le constat de la saison de se dire cette équipe est peut-être un peu trop jeune et il manque cet taulier pour aller chercher les quatre premières places.
Je vais regarder.
Même si on n'exclut pas que c'est possible d'aller en Europe.
Je regarderai tout à l'heure depuis quand on a. Quel était le dernier titulaire de 4-30 ans en défense centrale?
Vous nous direz. Pour être positif quand même, Mandanda, qui avait fait une boulette quand même contre Lorient, lui, le moral n'est pas touché. Hein, on se demandait tout à l'heure si le moral pouvait être touché. Il fait que des arrêts de gardien de hand. Regardez bien. Hein.
Il va remplacer Tabaron.
Sur sa ligne, il est très fort. Hein,
voilà. Ça, on peut pas regardez.
Lui reprocher ça. Hein.
Ah oui, ça sert aussi à ça, un gardien. Hein.
Il fait un grand match. Il y a 15 jours au parc, il fait un grand match. Contre Lorient, il s'est raté. Et là, il fait un bon match aussi.
Voilà. Ça montre quand même qu'il a un mental.
Là, les...
C'est un briscard.
Oui, mais alors, faut pas qu'il oublie qu'il a une défense très jeune devant lui. Parce que certaines de ses relances de proximité sont des relances sur ses latéraux. Des fois, c'est limite. Et parfois, il en fait même sur ses défenseurs centraux. Et
ils en veulent pas. C'est une demande du staff.
Les défenseurs sont un peu gênés par ça, parce que mais ça manque d'expérience.
C'est vrai, moi j'ai peur à chaque fois.
On tremble à chaque fois.
Tous les matchs que je vois, tout le monde sort comme ça maintenant, c'est cette sortie de balle, quand ça fonctionne pas tout le temps, mais quand ça fonctionne pas, c'est toujours des occasions de but pour l'adversaire.
On peut pas parler de ce qu'on vient de dire tout à l'heure, on disait dès que Mandanda allonge, on perd le ballon. Je suis désolé, on n'a pas le profil pour avoir une équipe qui doit allonger. Donc oui, on prend des risques de partir de derrière. T'as une équipe assez technique, je suis désolé, pour pouvoir sortir de derrière. Oui, c'est des prises de risques, oui, vous avez peur, mais le foot à l'ancienne, le kick and rush, moi j'en veux pas, et le Sarre n'en veut pas, et je suis bien content.
Voilà Pierre, voilà ce qu'on veut vous dire. Le foot de votre époque, c'est fini. Simono aussi. Voilà. Guiri, lui, il est en pleine forme.
Ah oui, c'était le meilleur même. Hein, pour ce match-là, il était excellent. Il était partout et ses passes et ses ballons étaient très précieux.
Ah, passe décisive. Je disais la première pour Kalimundo cette saison. Vous aviez l'air de rire, mais... vous vérifierez encore, David. Vous êtes spécialiste. Sur vos tableaux Excel, vous regarderez.
Ouais.
Hein, mais là, c'est parfait. Il est là. Après, il fait des cavalcades. Alors là, bon... Là, s'il met à gauche, c'est mieux.
Ah bah oui.
Il attend un peu, mais comme on est... Voilà.
On est à la 47e minute.
Ouais.
Rennes tremble. On attend que Rennes aille au vestiaire. Moi, je comprends qu'il temporise un peu.
OK.
Sur le coup d'avant.
Bon, là, Yoro. Mais souvenez-vous, ce qui m'amène aussi à dire que quand Rennes avait, à l'aller, était revenu à deux partout, après avoir été mené 2-0 par Lille, Yoro était impliqué. Yoro, il a quel âge ?
18 ans.
Voilà. Ah ouais. Bon, mais on a vu un bon match. Regardez, là, hop, on a l'impression qu'Angel ne va plus jamais se relever.
Il faut espérer que Amine, qui va sans doute jouer avec l'Algérie là, dans la trêve de mars,
il
a été appelé. Il faudrait qu'il ne se blesse pas non plus. Et voilà, quoi.
Oula, non, c'est vrai, j'avais oublié ça.
Bah, oui, parce qu'il a loupé la CAN. J'imagine bien que le nouveau sélectionneur va l'appeler et qu'il va jouer des matchs avec l'Algérie.
Oula, Pierre va nous reparler des chocs thermiques. Il va revenir, il va se faire mal.
Bon, c'est un nouveau sélectionneur en plus. Donc je pense qu'il va faire une grande revue d'effectifs.
Très bien,
L'équipe d'Algérie, donc c'est pour ça.
Et puis juste un mot quand même. C'est qu'un seul point et c'est deux suspendus, dont Truffert, dont on va voir qu'il a pris un carton jaune. Il sera suspendu à Strasbourg. Et on fait quoi à Strasbourg si on n'a pas Truffert ni Naguida ?
Ce sera Bélotion sur un côté, Théâtre dans l'axe ou l'inverse. Ouais,
si
Théâtre est là,
Théâtre est remis.
Autrement, ce sera Seydoux comme au parc. Bah non, mais Seydoux, il a déjà joué à l'arrière gauche, donc
c'est
ce sera ça.
Okay.
Je vois pas comment ça pourrait être.
Vous nous remontez
autrement.
Le moral, David, ça fait plaisir.
Je suis pragmatique, hein, tu me demandes par rapport à l'effectif, je te fais un truc.
Naguida, pourquoi il ne reviendrait pas voilà.
Ah bah non, parce que sa saison est
finie.
Ah pardon, je me trompe avec...
football ou quoi ?
Non pardon, je me trompe avec Rieder qui va revenir, mais Le Fay ici également. Pardon, je me trompe de
joueur. Oui, Rieder et Le Fay devraient revenir, ça c'est clair. Ils ne seront pas revenus en tout cas contre Marseille dimanche à 17h. Et vous le disiez Chloé, et vous avez raison, ce match il prend une importance ou une acuité... qu'on n'imaginait pas encore il y a deux matchs. Hein.
Bah, après Lorient, on pouvait quand même commencer à le penser, parce que c'est vrai que les trois points laissés en route face au Merlu, et Dieu sait que...
Vous aimez ce club.
Voilà. C'est vrai que ça laisse quand même plus beaucoup de jokers pour des contre-performances à domicile. Mais c'est vrai qu'après avoir laissé ces deux points, alors bon, c'est un de prix sur le papier, mais après avoir laissé ces deux points à Lille, et ben Marseille est qu'à trois points devant. Il y a clairement, enfin en fait, l'occasion, elle est juste, elle est là, elle est clairement posée. Oui. Pour revenir sur un premier concurrent direct, il n'y a pas tellement de choix.
Sauf que c'est eux qui ont la dynamique la plus favorable. Gasset, meilleur entraîneur d'Europe. Il n'y a pas un jour sans qu'il y ait des papiers sur Gasset. Alors que, oui, il y a trois semaines, on disait que c'était Joe Biden qui était arrivé avec Ghislain Printemps.
Oui, Marseille reste sur trois victoires d'affilée. Effectivement, il y a un changement à Marseille, mais voilà, Marseille est aussi fragile. On l'a vu contre Nantes hier.
Mais
voilà,
pour ceux qui ont regardé le match hier, oui. Nantes est plus près du 1 partout que du 2-0. Le but que met Aubameyang en fin de match, il est incroyable. Oui. Le contrôle. Et j'ai trouvé finalement que l'arrêt que fait le gardien nantais à la fin de match, ça ressemble aux arrêts de Mandanda. C'est-à-dire que le ballon est enlevé, mais n'est pas gardé.
Oui.
Et donc ça fait ça, le ballon. Donc du coup, alors, voilà, ça m'agace.
Il va falloir bonifier le point de Lille, hein, parce que c'est un point quand même, qui est un bon point pris à Lille. Il faut le bonifier contre une équipe donc, qui va bien, Pierre l'a dit, mais qui va jouer jeudi. Ouais, ils jouent jeudi à Villarreal.
Ouais, ils ont 4 buts d'avance. Donc je pense que là... La remontada peut-être, hein, mais bon, je pense qu'ils vont être quand même relativement sereins à Villarreal. Il va peut-être même un peu faire tourner Gasset. Donc,
vous pouvez pas faire tourner complètement votre équipe, évidemment.
Mais bon, à 4-0, Villarreal était complètement dominé. Là, c'est pas le Villarreal qui est venu à Rennes ou que Rennes a joué. C'était hiver.
Vous trouvez ?
Moi, non, mais le scénario du Barça, le 6-1, mais ça arrive une fois dans l'histoire. Je veux dire, ça serait incroyable.
Ouais. Bon, ils vont revenir un peu plus fatigués quand même, Pierre, dimanche.
Forcément un peu, mais bon.
Oui. Parce que, attention.
4-0, ça se gère bien pour un coach. Hein.
Je ne sais pas si on peut revoir le classement, mais juste pour vous signaler qu'il y a des matchs intéressants et qu'il va y avoir des matchs intéressants. Tout le temps maintenant, à chaque journée, on a en même temps que Rennes-Marseille, on a Lens-Nice. Regardez, on peut faire une bonne opération, hein. Lens-Nice et un Brest-Lille.
Ouais.
Voilà. Et derrière, il y a une trêve. Alors, il vaudrait mieux pas perdre avant la trêve. Christophe, on sait que c'est toujours... S'il faut cogiter pendant 15 jours...
Hein oui, c'est un match évidemment important et à 6 points, comme on dit, le fameux match à 6 points, il faut le gagner. Mais moi, je vois cette équipe, je trouve que sur ce qu'on voit depuis début janvier, c'est Rennes est capable de battre n'importe quelle équipe. Voilà, il y a plus de frustration qu'autre chose sur ces dernières semaines.
Rennes n'est bousculé par personne.
Il faudrait quand même assez rapidement qu'on constate que Théâtre est opérationnel, parce que si c'est une longue blessure... Là, le stade est mal parti jusqu'à la fin de saison. Il faudrait retrouver le fait assez rapidement. Il faudrait que Terrier revienne à un meilleur niveau. Ouais. Et on aurait un tout autre visage du Stade Rennais de fin de championnat, ouais. C'est évident.
Mais avec des si, hein.
Bah oui, mais ces trois joueurs-là sont des joueurs importants.
Souvenons-nous de l'aller à Marseille, en regardant les images, vous en souvenez bien. Où avait pris un carton rouge. Il y avait un but incroyable. Bon, il y avait d'abord voilà, un péno, hein, Christopher Wu. Transformé par Aubameyang. Et alors, le deuxième but, c'était un sketch. Alors après, où se fait... voilà, deuxième jaune égale rouge. Il est expulsé, c'est de la maladresse, c'est loin. Regardez ce but.
Il y a
zéro... Et regardez, alors je l'ai mis sous un autre angle. Regardez, bonjour les plots.
Hop. Il a dit qu'il tombe quand même très facilement d'habitude.
Voilà. Alors après, il y avait eu un autre rouge, voilà, hein, histoire de faire bonne mesure pour les Marseillais. Mais ça n'avait pas profité au Stade Rennais qui s'était donc incliné. C'était l'époque Gattuso. Voilà. Donc on espère qu'on va pas qu'on va pas revoir ça. On regarde les pronos. Attends, et on fait les pronos. Alors attention, les leaders, ils sont en pleine forme. Thomas Rassouli a marqué 2 points. David Thomas avait le bon score. Il marque 4 points comme Laurent Frétinier qui avait le bon score. On voit bien que les 3 premiers commencent à prendre leur distance, que ça va être, ça va être compliqué.
Et moi, non. J'avais le bon score jusqu'au temps additionnel.
Oui, bah oui, bah vous aviez mis 2-1.
Un match de football joué 90 minutes.
Eh ben oui, Pierre.
Plus.
Alors Pierre, dites-nous ce que vous pensez du Rennes-Marseille qui se profile.
Je vais me fendre d'un petit 2-1 pour Rennes.
Oui, d'accord. Ok, c'est un score tout à fait sympathique. Chloé, j'aurais peut-être dû même commencer par vous, mais...
3-2.
Pour Rennes, du spectacle. Du spectacle, des rebondissements et de la joie à la fin. David Thomas, surveillez bien, si vous pariez, surveillez bien. Il est très bon depuis le début de l'année, David.
Généralement, moi, j'attends les 24 dernières heures pour
oui,
parier.
Oui, ça, c'est vrai. C'est insupportable.
Non, c'est, j'ai le droit.
Oui, en même temps, ça vous donne raison. Ça vous donne raison.
Mais bon, là, je vais dire 3-1 pour Rennes.
3-1 pour Rennes.
Mais je changerai peut-être mon pari de samedi.
D'accord, ok, en fonction de ce qu'on apprendra sur théâtre.
Voilà, exactement.
C'est vrai que ça pourrait arriver. Christophe ?
2-1
pour Rennes. 2-1 pour Rennes. Eh bien, je vais dire, comme Pierre, comme vous, je vais dire 2-1 également. Attention, quand il y a unanimité, ça se passe rarement bien.
Donc, c'est pour ça que
donc on espère que Clément Gavard, qui nous regarde, va inverser tout ça. Merci Chloé, David, Pierre, Christophe. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez souri un petit peu. Vous êtes un peu moins frustrés que vous ne l'étiez au début de cette émission. On se retrouvera lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien et allez Rennes.
D'envoi de votre programme avec Pascal Menuiserie. Fenêtres, portes et volets dans vos salles d'exposition à Rennes et Vitré.
Pigeot Immobilier, la française immobilière, Habitant, Rennes Parc Expo, le groupe Pigeot, des métiers multiples, un acteur unique. Le groupe Pigeot, partenaire officiel des Rouges et Noirs.